bonsoir à chacun d'entre vous. En effet, ça fait plaisir de voir que nous sommes un bon nombre en ce samedi, en fin d'après-midi. Je sais qu'en région parisienne, c'est jamais évident de se déplacer. Et en fonction des églises où je vais, j'ai parfois des surprises. Il y en a qui me disent « Oh, on ne sait pas à quoi s'attendre ». Parfois, c'est bien. Et puis, à d'autres moments, c'est parfois un petit peu plus difficile. Est-ce que vous m'entendez assez? Est-ce que je dois prendre le micro ou on reste comme ça? Ça va? On reste comme ça? Hein, si au cas c'est pas assez fort, vous me le dites. Habituellement, je parle assez fort, mais bon, comme on n'est pas trop nombreux, je ne vais pas non plus parler trop fort. Pour l'enregistrement aussi, c'est bon? D'accord. Alors, je tiens d'emblée à préciser mon intention ce soir, face au sujet qui m'a été proposé. Mon objectif n'est pas de traiter le sujet dans sa globalité. Vous vous en doutez bien, ce n'est pas en 40 ou 45 minutes qu'on va pouvoir faire le tour de la question. Donc, comme Gordon l'a dit il y a quelques instants, si vous avez des questions qui viennent à l'esprit, ne m'interrompez pas, même si ça serait intéressant de pouvoir tout de suite échanger avec vous, mais gravez ces questions dans votre esprit, ou alors notez-les sur un bout de papier, sachez qu'à la fin de mon intervention, il y aura la possibilité de poser donc des questions auxquelles je n'aurai pas répondu, ou alors si vous souhaitez avoir des précisions. Et dans la mesure du possible, j'essaierai bien entendu d'apporter quelques éléments de réflexion supplémentaires par rapport à cette question de la souffrance. Que dire face à la souffrance ou devant la souffrance? C'était il y a un petit peu plus de 2 ans de cela. J'étais parti dans le sud de la France, à Marseille, et je remonte dans le territoire de Belfort où nous habitons. Et puis le soir, avec mon épouse et les enfants, nous en avions 3 à ce moment-là. Nous avions prévu une soirée resto, une soirée un petit peu sympathique, parce que j'étais parti pas mal en voyage. Et donc, je voulais consacrer un petit peu de temps aussi à ma famille. Et je vois mon épouse, elle était enceinte de notre 4e enfant. Ça a été la grande surprise, parce qu'on a des enfants qui ont 14, 13, 9 ans. Et puis, bon, voilà, un petit dernier qui arrive. Et puis, je vois mon épouse qui n'était pas dans son assiette, qui n'allait pas bien. Je voyais qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Et puis, je lui demande qu'est-ce qui se passe, et elle me dit, écoute, on en parlera tout à l'heure lorsque les enfants seront couchés. Donc, nous allons au restaurant, on passe un bon moment avec eux, nous rentrons chez nous, et puis, après avoir couché les enfants, on se met dans le canapé, et puis on commence à discuter. Et puis, elle me dit la chose suivante, eh bien, cet après-midi, comme tu le sais, je suis allé chez le gynéco, et le gynécologue a trouvé qu'il y avait un problème avec le petit. Ils avaient apparemment détecté une malformation qui pouvait avoir des conséquences au niveau d'une malformation génétique. Et puis, il avait fait pas mal d'échographies, de photos pour regarder un petit peu ce qui se passait. Et il a dit, c'est bien présent. Par la suite, elle est retournée de nouveau chez son médecin et c'était de nouveau présent. Et il lui a dit, si vous voulez, vous pouvez faire d'autres examens, mais sachez que les examens que vous ferez risquent de blesser, d'endommager encore plus, ou alors de toucher le bébé s'il ne devait rien avoir. Connaissant nos convictions, il ne nous a pas encouragés dans ce sens-là, ce n'était pas non plus notre désir. Et là, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et puis j'en ai parlé à un très cher ami, et puis il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, tu sais Manu, on ne peut pas se préparer à la souffrance, on ne peut pas se préparer à la maladie. Seulement, sache une chose, si le petit devait avoir quelque chose, Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin pour affronter cette situation. Et puis j'ai gardé cette parole dans mon cœur, et entre-temps, nous avons prié. Nous avons alerté tout notre cercle d'amis, que ce soit en France, en Haïti, en Afrique, et dans bien d'autres pays où j'ai des connaissances. Nous leur avons fait part de la situation, et nous leur avons demandé de prier pour que Dieu intervienne, pour que Dieu fasse quelque chose. Les mois ont passé, silence radio, ou plutôt silence échographique, parce que par la suite, on ne voyait pas ce qui se passait chez le petit, étant donné qu'il grandit, qu'il change. Donc le docteur n'avait pas plus d'éléments d'information à nous donner. Et puis finalement, le 13 août 2007, le petit est né. Ça s'est passé d'une manière un peu spéciale, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas l'objet de la conférence de ce soir, mais il est né à la maison, et en plus c'est moi qui ai fait office de sage-femme, puisque mon épouse accouche très très vite. Et finalement, c'est seulement quelques minutes après l'accouchement qu'on a pris le soin de regarder le petit, et celui-ci était en bonne santé. Et par la suite, les médecins l'ont aussi confirmé. Et nous avons été infiniment, et nous sommes infiniment reconnaissants à Dieu pour son intervention. Nous ne savons pas exactement tout ce qui s'est passé. En tout cas, nous savons une chose. Nous croyons que Dieu est intervenu. Dieu est le Dieu des miracles. Alors rassurez-vous, ce n'est pas tout ce que je vais dire ce soir, mais il est celui qui intervient aujourd'hui encore. Et je n'ai aucun doute à ce sujet. Dans le cadre de mon ministère, j'ai rencontré bien des personnes, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes aussi, qui ont été soulagés de leurs souffrances, qui ont expérimenté la réalité du message de Pâques. Parce que c'est ça, la réalité du message de Pâques, c'est non seulement un Christ qui est mort sur une croix pour nos péchés, pour nos souffrances, mais comme nous le dirons et comme nous le proclamerons demain matin, c'est un Christ qui est vivant, c'est un Christ qui est ressuscité, à qui tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Et s'il y a quelqu'un aujourd'hui qui règne, c'est bel et bien la personne de Jésus-Christ. Il y a 3 semaines de cela, j'étais en Suisse. Et à la fin d'une rencontre où j'ai eu l'occasion de présenter le message de l'Évangile, il y a une dame qui est venue me voir, une dame avec qui nous avons eu un entretien avec le pasteur, une dame qui souffre depuis plusieurs mois. Elle a une souffrance un peu particulière, elle a des brûlures en dessous de la peau, ça la brûle partout. Que ce soit dans les jambes, que ce soit dans le torse, que ce soit dans les mains aussi. Elle a consulté de nombreux docteurs pour sa situation, des docteurs qui lui ont proposé aussi de faire toutes sortes qui lui ont proposé des traitements, qui ont essayé de voir aussi s'il n'y avait pas quelque chose. Elle a fait un test aussi pour le sida, parce qu'elle maigrissait et les traits de son visage étaient tirés. Ce soir-là, nous avons dit, madame, nous allons prier pour vous. Et nous lui avons imposé les mains, nous avons prié pendant 15 minutes pour elle. Il y avait aussi des problèmes occultes derrière, et certainement qu'il y avait un lien entre sa maladie, sa souffrance et ce que d'autres personnes avaient pu faire sur elle au niveau occulte. Et donc nous avons prié pour elle et ensuite elle est partie. Et le dimanche, elle était juste assise à côté de moi, à 2-3 mètres. À la fin du culte, je vais vers elle et je vois que son visage était déjà beaucoup plus détendu, souriant. Et je me suis dit, tiens, peut-être il y a quelque chose qui s'est passé. Je lui dis, comment allez-vous? Elle me dit, depuis l'autre soir, vous avez prié. Toutes mes douleurs sont parties. Amen. Dieu était intervenu et avait libéré cette femme de ses brûlures. Je tiens à rajouter aussi ce soir, parce que je ne veux pas non plus avoir une vue entièrement triomphaliste et dire que Dieu intervient toujours comme nous le souhaitons, mais je tiens aussi à rajouter que dans le cadre de mon ministère, j'ai rencontré bien des personnes qui, jusqu'à ce jour, n'ont pas été soulagées de leurs souffrances. Et là, malheureusement, les exemples sont encore plus nombreux. Je me rappelle de cette rencontre que j'ai eue en plein air, c'était au Burkina Faso, dans une petite ville où j'ai eu l'occasion d'annoncer le message de l'Évangile en plein air. Et puis comme je le fais toujours à la fin, j'invite les personnes qui étaient là à venir, à s'avancer pour recevoir Jésus-Christ et pour être sauvées. Et puis ensuite, nous prenons toujours un temps pour prier pour les malades. Et ce soir-là, j'avais repéré dans la foule une maman qui était venue avec son fils. Elle était obligée de traîner son fils par terre. Il devait avoir 16 ans ou 17 ans. Il était difforme de partout. Lorsque je l'ai vu, ça m'a fait mal au cœur. Et puis elle s'est avancée avec son fils pour la prière. Et j'ai prié avec toute la foi que j'avais, ou le peu de foi que j'avais, mais que j'ai mis en Dieu. Et j'ai prié, on a prié pour ceux qui étaient malades. Ce soir-là, cette femme est retournée chez elle avec son enfant qui était toujours aussi malade qu'avant. Dieu n'était pas intervenu. Lorsque je suis retourné à l'hôtel, j'ai pris la douche. Et puis sous la douche, je me souviens encore bien, j'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi tu n'es pas intervenu ce soir? Tu vois bien cette femme. Tu vois la souffrance de son fils. Tu vois combien c'est encore plus difficile pour eux que pour nous ici, parce qu'ils n'ont pas toutes les structures pour pouvoir accueillir, pour pouvoir aider un tel enfant. Pourquoi n'es-tu pas intervenu? Et je suis resté là avec ma question, tout simplement. Il y a bien des fois où Dieu semble silencieux, où rien ne se passe, Et dans ces moments-là, vous savez comment ça se passe, nous sommes là avec nos questions. Les fameuses questions que tout le monde se pose, que vous vous posez, que des personnes de votre entourage peut-être se posent, si Dieu existe, et qui plus est s'il est bon, comme l'affirment et le croient les chrétiens, pourquoi ne fait-il rien pour soulager la souffrance ? Pourquoi ne fait-il rien pour aider ces 40 000 enfants qui chaque jour meurent de faim et d'infection dans le monde ? 40 000 enfants qui chaque jour perdent la vie. Pourquoi ne fait-il rien pour soulager ces 900 millions de personnes dans le monde qui vivent dans une souffrance qui est constante de chaque instant ? Pourquoi n'intervient-il pas davantage ? Pourquoi ne met-il pas ses mains dans ce monde ? Pourquoi ne fait-il pas quelque chose ? Et surtout, si j'en reviens à nous-mêmes et à moi-même et à vous-même, pourquoi ne fait-il rien pour vous soulager, vous ? Pourquoi avez-vous peut-être perdu un proche ? Pourquoi n'arrivez-vous pas à trouver un travail ? Pourquoi avez-vous l'impression que Dieu est là ? Oui, je crois en lui, ou je ne crois pas en lui, mais que fait-il ? Où est-il ? Est-il parti en vacances, en République dominicaine, en Afrique, ou dans une destination paradisiaque ? Où est-il et que fait-il ? Je vais peut-être vous décevoir, je n'ai pas de réponse entièrement satisfaisante à vous fournir ce soir. Non seulement moi je n'ai pas de réponse entièrement satisfaisante à vous fournir à ce niveau-là, mais en plus la Bible elle-même, et ça va peut-être vous surprendre, même si elle a des choses très intéressantes et Dieu merci à nous enseigner, elle-même non plus ne nous donne pas des réponses 100%, je dis bien 100% satisfaisantes à toutes les questions que nous pouvons nous poser. Ceci dit, elle nous apporte quand même quelques pistes de réflexion. Quelques pistes de réflexion que je vais développer dans quelques instants, mais auparavant, je fais une toute petite parenthèse. Vous me l'accordez ? Une petite parenthèse. J'ai l'occasion de voyager un peu. Et j'aime cela, et j'aime être confronté à d'autres cultures, à d'autres manières de penser, à d'autres visions du monde, et ça fait du bien, surtout lorsque je sors ici de France, parce qu'on a une telle vision du monde qui parfois ne me plaît pas tellement, et le fait d'aller dans d'autres cultures, d'appréhender le monde différemment, de voir des personnes qui pensent différemment, qui ont une autre vision de la vie, je trouve que ça ouvre l'esprit, ça aide, et ça montre qu'il n'y a pas qu'une seule manière de penser. Mais j'ai remarqué ceci, si je vais en Haïti, j'y suis allé de nombreuses fois, 7 fois je suis allé là-bas, depuis l'an 2000 je vais régulièrement là-bas. Si je vais en Haïti et que j'aborde la question de la souffrance, la question du mal, etc., et que je pose les questions que nous nous posons ici, à savoir pourquoi, je tape complètement à côté de la plaque, complètement. Ici, qu'on croit en Dieu ou qu'on ne croit pas, dès que ça ne va pas, je vais voir mon boulanger par exemple, on parle des nouvelles de ce qui se passe dans le monde, et il dit, eh ben ton Dieu, pourquoi, où est-il, qu'est-ce qu'il est en train de faire ? Et paf, on est en plein dans le sujet. Là-bas, j'aurai jamais ce genre de réponse, jamais ce genre de questions qui vont venir. Certains vont me dire, mais peut-être, c'est parce qu'ils ont baissé les bras. Effectivement, il y a plusieurs éléments de réponse. Certaines personnes ont baissé les bras, sont tellement découragées, vivent des situations tellement difficiles, je pense ne serait-ce qu'à la capitale d'Haïti, Port-au-Prince, pour une ville de 3 millions d'habitants, vous avez 20 bidonvilles, dont un bidonville, Cité Soleil, avec 400 000 habitants. Quand vous passez là-dedans, quand vous voyez comment vivent les personnes, vous avez l'impression d'être dans un mauvais film, non pas dans un mauvais film, dans un cauchemar. De vivre un cauchemar. Vous fermez les yeux, vous allez dire, bon, je vais ouvrir les yeux, et puis maintenant, je vais voir autre chose. Eh bien non, ce que vous voyez, c'est bel et bien la réalité. On peut comprendre que face à cela, il y en a qui ont baissé, en effet, les bras. Mais j'ai remarqué aussi que certaines personnes n'ont pas baissé les bras, mais si elles n'abordent pas ces questions-là, ça vient tout simplement du fait qu'elles ont une autre conception, une conception tout autre de la vie, complètement différente que celle que nous avons ici. La souffrance, pour eux, fait partie de l'existence. Ils l'ont intégré, et s'ils n'ont pas intégré, très très vite, ils vont le comprendre. Dès les premières années de la vie, ils vont y être confrontés de manière extrêmement brutale. C'est une réalité. Et par conséquent, il y a un autre rapport à la mort, un autre rapport à la vie, un autre rapport aussi face à la maladie et aux souffrances qu'elle touche les autres, ou alors qu'elle les touche eux-mêmes. Ok ? Je pense à cet homme que j'ai rencontré un jour quand j'étais dans le sud d'Haïti, dans une très très belle ville, Jacmel. C'est une ville magnifique. Vous pouvez vous promener en toute liberté, vous ne risquez pas d'être embêté, comme c'est le cas à Port-au-Prince où il y a souvent des enlèvements. Et un dimanche, je ne sais plus quel jour c'était, un matin, nous sommes sur la terrasse, nous avions prévu tout un séminaire de formation avec mon mentor, pour des pasteurs, pour des responsables d'église et d'œuvres, etc. Et donc le matin, nous prenons notre petit déjeuner et tout d'un coup, on voit un homme qui arrive en fauteuil roulant. Il vient et il avait aussi les mains et les pieds complètement déformés. Et il vient et bien sûr, il attendait à ce que nous lui donnions quelque chose. Mais il avait un sourire. Et moi, j'ai été accroché par son sourire. Je me suis dit, ce gars-là, il est saoul, il n'est pas normal. Mais ce n'est pas normal qu'il ait un sourire comme ça, vu la situation dans laquelle il est. Nous sommes allés vers lui. On lui a donné, bien entendu, quelque chose. Et puis, on a discuté avec lui. Nous apprenons que cet homme était chrétien. Et il avait une joie de vivre, un enthousiasme, malgré ses conditions. Il n'avait personne qui l'aidait. Il n'avait pas de famille pour l'aider. Il n'y avait pas l'État qui était là pour lui donner un petit quelque chose à la fin du mois pour pouvoir s'en sortir. Il était tout seul. C'était des amis qui l'aidaient un petit peu. Ou alors tous les jours, il était dans la rue, il était là, il mendiait. Et il attendait pouvoir recevoir quelque chose pour subsister. Et malgré cela, il avait le sourire. Et ce n'était pas un sourire factice. Ce n'était pas une paix factice parce que plus tard, nous l'avons revu. Et il se comportait exactement de la même manière que nous lorsque nous l'avions vu ce matin-là, alors que nous étions en train de prendre notre petit déjeuner. Une autre conception de la vie, de la souffrance. Alors chez nous, ici en Occident, on a une conception qui est diamétralement opposée. Nous pensons et nous croyons que tout nous est dû. Vous l'avez remarqué. Chez nous, tout nous est dû. La vie nous est due, la santé, la prospérité, le bonheur. Alors que finalement, réfléchissez un peu, ce sont des choses très aléatoires. La santé, ça tient à quoi ? Ça tient à rien du tout. J'ai un caillot de sang et en l'espace de 2 minutes, 1 minute ou de 30 secondes, je peux passer de vie à trépas. La prospérité, on le voit actuellement, bien des personnes sont en train de tout perdre ou de perdre beaucoup. La vie aussi, le fait que nous soyons nés ici. Pourquoi sommes-nous nés ici ? Pourquoi ne sommes-nous pas nés en Haïti ou alors dans un autre pays d'Afrique ou alors en Asie ? Finalement, ça tient à très, très, très peu de choses. Et nous pensons que tout nous est dit, le bonheur aussi, alors que ce sont des choses très aléatoires qui tiennent à très peu. Le fait de vivre dans un endroit calme est une chance, comme je dis souvent, une merveilleuse opportunité. Et comme je le dis souvent, même si nous vivons des moments difficiles, nous sommes quand même quelque part, et certains même un peu beaucoup, nous sommes quelque part des chanceux. Des chanceux qui l'ignorent. Ou des chanceux râleurs. Ça va mieux, ça. Ça nous convient. Ça nous correspond un peu mieux. Enfin, quand je regarde moi-même, je ferme la parenthèse. Revenons à nos moutons. Que nous dit Dieu par rapport à cette question du pourquoi de la souffrance ? Quelques pistes, simplement. Tout ça pour poser les bases, parce que c'est important. Ce que nous savons, c'est que Dieu est à l'origine de toutes choses. Le premier livre de la Bible, le livre de la Genèse, chapitre 1, verset 1, dit ceci. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. » Et plus loin, il nous a dit ceci, écoutez bien, « Dieu considéra tout ce qu'il avait créé et trouva cela très bon ou excellent. » Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le monde que Dieu avait mis en place était un monde parfait, sans défaut, sans dysfonctionnement, sans souffrance, sans péché, sans toutes ces choses qui nous pourrissent l'existence et qui rendent notre vie parfois si difficile. C'est dur à imaginer pour nous aujourd'hui parce que nous vivons, nous ne connaissons pas cela, nous n'avons jamais connu ce monde parfait. Nous ne connaissons qu'un monde imparfait. Que s'est-il donc passé ? Il y en a plusieurs parmi nous ce soir qui connaissent la suite du récit. Mais là aussi, nous n'allons pas l'escamoter parce que c'est très important pour comprendre ce problème de la souffrance. Dieu crée un monde parfait, il place un homme, une femme, il lui confie une tâche, un service, et il lui donne un commandement. Vous me direz, c'est pas beaucoup un commandement. Le commandement que Dieu avait donné, c'était qu'ils pouvaient jouir de tout ce qu'il avait mis en place, de tout ce qu'il avait mis à leur disposition, seulement ils n'avaient pas le droit de toucher, de manger le fruit d'un certain arbre. Pourquoi? C'est Dieu qui l'avait choisi, c'était ainsi. Malheureusement, il y a eu désobéissance. Il y a eu désobéissance, on a mangé du fruit, et là il s'est passé quelque chose de dramatique, quelque chose dont nous payons aujourd'hui encore, dont nous subissons plutôt aujourd'hui encore les conséquences, puisque la Bible nous dit que le péché est entré dans le monde. Ça veut dire quoi? Et avec le péché, la souffrance et tout son cortège de difficultés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la souffrance est intimement liée, est intrinsèquement liée à la question du péché. Et par conséquent, nous ne pouvons pas aborder la question de la souffrance sans parler du péché, puisqu'il y a un lien extrêmement étroit entre ces deux sujets. Le péché entre dans le monde, avec le péché la maladie, la souffrance et tout son cortège de dysfonctionnement que nous connaissons aujourd'hui. Attention, je mets un bémol et un gros bémol, ou même plusieurs bémols pour les musiciens. Ça ne veut pas dire que lorsqu'on souffre, c'est parce qu'on a péché. Ce serait beaucoup trop réducteur et facile de dire les choses ainsi. Je le souligne, pourquoi? Parce qu'il m'arrive de tourner dans certains milieux où on entend parfois ce discours-là. On va te dire, parce que, eh bien, si tu souffres, c'est certainement qu'il y a un péché, tu devrais peut-être réfléchir, prendre le temps de t'examiner toi-même. Oui, mais j'ai pris le temps de m'examiner moi-même, je ne vois rien, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu de m'éclairer. Il ne m'a rien dit à ce sujet-là. Il peut arriver, en effet, que la souffrance soit la conséquence d'une désobéissance à Dieu. Il ne faut pas l'exclure. La Bible elle-même ne l'exclut pas et nous donne de nombreux exemples. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on voit habituellement. Et heureusement, heureusement mes amis, parce que sinon on serait tous malades, ça ne serait pas possible. Il y a un verset de la Bible que j'aime bien qui dit ceci, écoutez bien. « Dieu ne nous traite pas selon le mal que nous avons commis. Il ne nous punit pas comme le méritent nos fautes. Heureusement. » Parce que sinon, mes amis, oh là là, on serait malades. Hein? Tout ça pour dire que la souffrance est venue avec l'entrée du péché dans le monde, que depuis ce moment-là, elle touche tout un chacun, croyant ou incroyant. Quelqu'un va me dire, mais ça sert à quoi de devenir croyant si je suis aussi touché par la souffrance? Il y en a qui se posent cette question. Elle touche tout le monde. Il est vrai que Dieu préserve ses enfants, qui leur accorde parfois un peu plus. Mais l'expérience nous montre aussi que de grands serviteurs de Dieu, que des personnes qui étaient très fidèles, ont beaucoup souffert. Pourquoi? Je pense à cet ami qui habite dans le pays de Montbéliard, où je suis actuellement. L'année dernière, ils ont perdu leur fils à 20 ans. Vous imaginez? Il part sur Strasbourg. Le soir, il part faire son jogging. Et puis c'est un homme consciencieux, qui travaillait sur un chantier, qui était responsable. Et puis alors qu'il retourne de son jogging pour rentrer chez lui, il passe par le chantier, il voit une grande grue, et puis il monte sur cette grue, tout simplement, pour regarder un petit peu, pour prendre une vue d'ensemble du chantier, parce qu'il avait vu quelque chose qui lui semblait un petit peu bizarre. Et là, personne n'était là. Il est tombé. Et il est mort. Paf. Pourquoi? Et puis n'oublions pas aussi que bien des souffrances sont liées à la méchanceté et à l'égoïsme de l'homme. Est-il utile de le rappeler? Je le crois, parce que souvent nous accusons un peu facilement Dieu. Certaines souffrances, mes amis, sont la conséquence directe du fait que notre cœur, comme nous dit la Bible, est tortueux par-dessus tout. Et bien des souffrances sont bien tout simplement du fait que notre cœur est dur, que notre cœur est insensible.
et que parce que nous pensons qu'à nous enrichir, ou d'autres personnes, ou l'homme pense à s'enrichir, ne pense uniquement qu'au profit, des populations entières vont souffrir et vont récolter quelque chose qu'elles-mêmes n'auraient jamais voulu avoir. En tout cas, un fait est certain, notez-le, même si nous sommes loin de tout comprendre, Dieu est et reste le même. Notez aussi ceci, le fait que Dieu n'intervienne pas toujours ne signifie pas qu'il ne peut pas. Ça ne signifie pas non plus qu'il ne veut pas. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il ne va pas intervenir. Il va peut-être intervenir. Et cela nous permet toujours de conserver et de garder espoir. Notez aussi que la question du pourquoi, finalement, est une question qui n'est pas beaucoup traitée. En tout cas, si j'en crois la lecture que j'ai de la Bible. À quoi sert-il de savoir pourquoi l'on souffre, ou pourquoi un tel souffre, ou pourquoi notre monde souffre? C'est bien de se poser la question, c'est bien de réfléchir, mais est-ce que ça va m'aider? Est-ce que ça va faire, comme disait Coluche, avancer le schmilblick? Ce qui aide lorsqu'on souffre, c'est quoi? C'est d'avoir des réponses, c'est de pouvoir surmonter, c'est d'être consolé, c'est de retrouver confiance, de garder l'espoir, de vivre, et peut-être aussi, dans certains cas, lorsque Dieu le permet, d'en être délivré. Certes, le pourquoi peut nous aider, mais ce qui compte, lorsque j'ai une rage dedans, je ne vais pas me poser pendant 10 minutes la question du pourquoi, je vais sauter sur mon téléphone, je vais téléphoner à mon dentiste et je vais le supplier de me prendre le plus rapidement possible. Et une fois qu'il m'a soulagé, je vais être content. Et je vais lui dire, ah mais tiens, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé là? Eh bien, voilà ce qui est arrivé. Alors, ça va m'aider un petit peu à comprendre, peut-être à être vigilant pour la prochaine fois, mais en tout cas, ce qui m'aura fait du bien sur le moment, c'est de pouvoir être soulagé, de trouver une réponse très concrète à mon problème. Que dit la Bible de pratique, de concret face à cette question de la souffrance? J'ai noté 3 points et je termine avec cela. Première chose, gravez cela dans votre esprit. Malgré toutes nos souffrances, Dieu est présent. L'Écriture nous montre qu'il est près de celles et ceux qui souffrent. Mère Teresa dit ceci, la plus grande souffrance est de se sentir seul, sans amour, abandonné par tous. On peut être lâché par son conjoint, abandonné. On peut être abandonné par ses enfants, par ses parents. On peut être lâché par d'autres membres de notre famille. On peut être lâché par ses amis. Le patron aussi peut nous lâcher. En ce moment, il y en a beaucoup qui lâchent, hein, leurs employés. La Bible nous dit qu'il y en a un qui ne nous abandonne jamais, même si c'est parfois difficile à croire, eh bien, c'est Dieu. Dieu qui est proche particulièrement de celles et ceux qui souffrent, qui ont le cœur brisé. Notez quelques références, plutôt quelques passages que je vous laisse ici, qui mettent en évidence cette réalité. « Je ne te délaisserai pas, dit Dieu, et je ne t'abandonnerai pas. » Dans un autre texte, il dit ceci. « Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te soutiens. » Et que dire des évangiles? Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de lire les évangiles? Oui? D'autres, c'est peut-être pas le cas. Sachez que si vous n'avez jamais eu l'occasion de lire les évangiles, on vous remettra une Bible gratuite. Ça va, je m'engage pas trop, hein? On vous remettra gratuitement une Bible. Lisez-la, commencez par lire les évangiles. Vous allez voir, les évangiles, c'est extraordinaire. Tout au long de son ministère, qui était très court, 3 ans, Jésus a passé son temps à faire quoi? À consoler, à relever, à encourager, à guérir, à aider, ça et là. Il a passé son temps à redonner confiance et à soulager, autant que faire se peut, en tout cas là où il était, à l'endroit même où il était, à soulager la souffrance des autres. Alors de deux choses l'une, soit ce ne sont que de beaux récits, qui aujourd'hui, voilà, de beaux récits, quelque chose qui s'est passé, mais personne ne sait si c'est vrai, de belles paroles, paroles semblables à celles de certains de nos politiciens, c'est-à-dire parfois un tissu, on ne sait pas trop ce qui est vrai dans tout ce qui nous est dit, soit, mes amis, ces paroles qui nous sont proposées dans la Bible, par rapport à la présence de Dieu auprès de ceux qui souffrent, sont vraies. Mais si elles sont vraies, ça veut dire quoi? Si elles sont vraies, ça veut dire que je peux les croire. Que non seulement je peux les croire, mais que ces paroles aussi peuvent se réaliser dans ma vie aujourd'hui. Pensez-vous que c'est possible? Le plus beau, ou un des plus beaux témoignages que j'ai eus, c'est certainement celui de ma grand-mère. C'est grâce à elle que j'ai découvert la foi chrétienne. Je ne vais pas m'étendre, mais à l'âge de 42 ans, elle a perdu son mari, qui pourtant était pasteur, qui lui avait 50 ans, qui est mort, arrêt cardiaque. Elle s'est retrouvée toute seule avec 7 enfants. 6 garçons, et pas tous des cadeaux. Hein. Enfin, si, mais c'était... Ils n'allaient pas comme on veut, hein. Ils n'allaient pas tout droit.
Non, non, ça allait à gauche, à droite,
et ils ont conservé un bon caractère. C'est bien, ça les a aidés. Une fille. Elle s'est retrouvée toute seule. Bien entendu, c'était l'homme de sa vie. Le chagrin, la souffrance a été immense. Son témoignage a touché beaucoup de personnes là où elle a vécu en Alsace. Parce que malgré cela, envers et contre tout, même si c'était difficile et qu'elle a eu très peu d'aide, elle a décidé de se battre. Elle a décidé de travailler. Elle a décidé de croire que malgré tout, Dieu était quand même, pas quand même, que Dieu était bon. Elle a décidé de croire cela. Elle a pris soin de ses enfants, elle a tout fait pour les élever. Moi, j'ai été en contact avec elle lorsque j'étais enfant, parce que lorsque mes parents se sont séparés, c'est elle qui nous a aidés pendant un temps. J'ai toujours connu une femme heureuse. Non pas une femme qui a mené une demi-vie, non pas une femme comme j'ai rencontré certaines personnes qui sont là avec des souffrances tellement grandes, on a l'impression qu'elles ne vivent qu'une demi-vie, lorsque ce n'est pas, lorsque c'est un quart de vie parfois, ou même rien de la vie. Elle n'était pas remplie d'amertume, pas de souffrance. Certes, il y avait parfois de la tristesse, de la mélancolie, ce qui est normal, mais malgré cela, elle a pu vivre sa vie et avoir une belle vie. Et ce qui l'a aidée, comme elle me l'a toujours dit, c'est Dieu. Elle m'a dit, dans tous ces moments difficiles de souffrance que j'ai traversés, j'ai décidé, envers et contre tout, même si mon cœur ne ressentait rien, j'ai décidé de croire ce que Dieu me disait dans sa parole. Et parce que j'ai cru ce que Dieu me disait, et que j'ai cru qu'il ne mentait pas, même si je vivais le contraire pour le moment, Dieu a soulagé mon cœur, a guéri ma souffrance, et m'a permis ensuite d'aller plus loin. Ça n'a rien de logique, ce que je vous dis. D'un point de vue rationnel, pas grand-chose. Mais ça, c'est la réalité. La réalité, Dieu est présent et proche de ceux qui sont désespérés. Et comme l'affirme si bien la Bible, je vous laisse cette parole, il nous console dans toutes nos détresses, et lorsque quelqu'un crie à lui, il l'entend et le sauve de toutes ses détresses. Je ne sais pas ce que vous vivez, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, je ne sais pas les souffrances auxquelles vous êtes confrontés, je ne sais pas ceux qui habitent, proches, qui sont proches de vous, qui souffrent, et peut-être vous êtes là. Seulement, moi, je sais une chose, je crois que dans votre souffrance, Dieu peut s'approcher de vous. Je crois que c'est possible. Un jour, j'étais à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du Burkina Faso. Et j'ai eu l'occasion d'annoncer l'évangile dans un endroit, il y avait plusieurs milliers de personnes qui étaient là. Et ce soir-là, il y avait dans l'auditoire un homme. Un homme qui avait, je ne sais plus, 7 ou 8 enfants, et qui était là, le cœur triste. Un homme qui était complètement découragé. Que s'était-il passé? Eh bien, il s'est passé la chose suivante. Quelques semaines avant que j'arrive dans cette ville de Bobo-Dioulasso, cet homme qui a une grande famille était parti avec son épouse et les enfants. Ils ont mis les enfants dans la voiture, un grand véhicule, et puis ils sont sortis. Et il y avait le petit dernier qui dormait dans la voiture. Et ils l'ont oublié. Terrible. Ils ont fermé la porte. Et ils l'ont oublié. Ils sont revenus après. Et avec la chaleur, le petit était mort. Vous imaginez la culpabilité, la souffrance dans le cœur du papa, de la maman aussi, se culpabiliser, mais c'est pas possible, je suis croyante, j'oublie mon petit dernier. ou je suis parent, tout simplement, j'oublie mon enfant. Et la souffrance qui était là. Et ce soir-là, alors que j'étais en train de parler, Dieu a fait le miracle. Le Seigneur est venu et il a touché son cœur. Et il lui a apporté une consolation. Et il lui a montré aussi qu'il prenait en compte sa culpabilité. Et qu'il a commencé à toucher son cœur. Et après, quelqu'un est venu me donner ce témoignage. Lorsque nous souffrons, nous pouvons aller à Dieu, tout simplement dans la prière. La prière, c'est extraordinaire. La prière, comme moi, je prie, qu'est-ce que je fais? Quand je prie, je fais un pas vers Dieu. D'accord? Et Dieu, lui, qu'est-ce qu'il fait? Dieu, lui, il ne fait pas deux pas. Il n'en fait pas cinq. Il n'en fait pas dix. Dieu, il en fait cent. Ok? Dieu, il fait 100 pas vers moi, c'est-à-dire il vient, il court. À partir du moment où je vais prier, où je vais dire, Seigneur, je ne comprends pas ce qui se passe, je fais un pas vers toi dans la prière, je mets ma confiance en toi. Voilà, je m'attends à toi. Lui, il ôte son ciel, où là il se trouve, immédiatement, il va venir, il va courir. Parfois, ça va prendre du temps, jusqu'à ce qu'il y ait une reconstruction et que nous expérimentions sa présence et sa consolation. Mais il va venir et il va le faire parce qu'il est vivant. Amen. Deuxièmement, Dieu peut utiliser aussi la souffrance pour nous parler, pour nous interpeller. Là, j'aimerais être bien clair. Dieu utilise la souffrance pour nous parler. Bien des personnes, qu'elles soient croyantes ou non croyantes, ont parfois une fausse conception à ce sujet. Et certains pensent la chose suivante, plus je souffre, plus je suis malade, plus mes proches sont malades, tout ça, ça va être bon, ça va être bénéfique pour moi, parce que Dieu va faire quelque chose dans ma vie. Ça va me permettre peut-être de me rapprocher de Dieu, ou alors ça va me permettre de recevoir plus de bénédictions. C'est une mentalité que je rencontre, que nous rencontrons parfois encore dans notre pays, une telle conception qui provient d'un certain héritage chrétien, ou d'une certaine lecture de la parole de Dieu, qui provient aussi par exemple d'un verset dans l'évangile où Jésus déclare ceci, que celui qui veut venir après moi se charge lui-même de sa croix et qu'il me suit. Mais combien de fois des personnes ont pu me dire, oui, moi ma croix, c'est toutes les souffrances, tous les maux que j'ai, tout ça, c'est le Seigneur qui m'a donné ça, ça va m'aider, etc. Drôle de conception. Par conséquent, eh bien, acceptons-les avec résignation, supportons-les. Une telle conception relève, à mon avis, d'une méconnaissance de Dieu. Parce que c'est tout le contraire. Tout au long de la Bible, je l'ai dit et je le redis, Dieu cherche à soulager la souffrance. Non seulement il cherche à la soulager, mais il nous demande, nous aussi, en tant qu'être humain, je n'ai pas le temps de développer cet aspect-là, mais de tout entreprendre pour soulager la souffrance. Regardez bien, les chrétiens ont été et sont aujourd'hui encore à l'origine de beaucoup d'œuvres sociales qui sont destinées à soulager, à tempérer les souffrances des autres de ce monde. Puisque Dieu le fait pour nous, et Dieu l'a fait pour l'humanité à travers Jésus, il nous demande nous aussi, puisque nous sommes ses mains et ses pieds, de pouvoir le faire pour d'autres personnes. Gravez cela dans votre esprit, Dieu ne veut pas que l'homme souffre. Et par conséquent, je pense qu'il n'est pas juste de remercier Dieu pour la souffrance. Par contre, il y a une nuance. Dieu se sert de nos souffrances pour nous parler. Et si je remercie Dieu, ce n'est pas parce que j'ai une tuile qui m'est tombée sur la tête, je ne vais pas lui dire merci. Par contre, je vais lui dire, Seigneur, merci parce qu'à travers ça, j'ai pris conscience de quelque chose. Je n'avais pas réalisé ça. Et par conséquent, je veux te dire merci. Mais je ne te dis pas merci pour la tuile, mais je te dis merci parce qu'à travers ça, tu m'as parlé. En tout cas, c'est ce qui ressort, entre autres, d'un livre de la Bible que je vous recommande aussi. Et là aussi, on vous remettra une Bible, si vous voulez, le livre de Job. Et dans le livre de Job, au chapitre 33, il nous est dit ceci, « Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y fait pas attention. Par la douleur aussi, l'homme reçoit un avertissement sur sa couche. » Vous me direz, mais Dieu ne peut-il pas utiliser un autre moyen pour nous parler? Est-ce qu'il ne pourrait pas nous parler quand ça va bien dans notre vie? Quand nous réussissons dans notre couple, dans notre foyer, au travail, qu'on a un compte en banque qui est bien garni, est-ce qu'il ne peut pas nous parler à ce moment-là? Bien sûr qu'il peut nous parler. Lui, il cherche toujours à nous parler. Est-ce que moi, je vais entendre quand tout va bien dans ma vie? Est-ce que vous arrivez à entendre? Ça fait 18 ans que je suis chrétien, je remarque une chose. C'est souvent dans les moments où ça va moins bien, pour ne pas dire moins, pas du tout bien, que je vais réussir à entendre et comprendre quelque chose. C'est fou ça. Pourtant, je connais quelques petits trucs sur Dieu. Incroyable.
L'expérience nous montre que le cœur de l'homme est parfois tellement dur, incrédule, foncièrement incrédule, méchant, fermé, que c'est malheureusement dans les moments difficiles que nous allons tout d'un coup lever la tête.
Ce qui nous permet de comprendre aussi pourquoi, dans bien des pays qui sont moins chanceux que les nôtres, il y a plus de personnes qui croient. Quand on est dans le trou, qu'est-ce qu'on fait? Soit on va se plaindre, ça ira encore plus mal, on va se lamenter sur son sort, et on vit une demi-vie ou un quart de vie, je ne sais pas ce que c'est. Ou alors, on va lever la tête et on va dire, au secours, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut m'aider? Et dans ce cas-là, l'Évangile devient réellement une bonne nouvelle. Parce qu'il y a un formidable message d'espérance qui est derrière. Vous saisissez? C'est seulement ou souvent dans ces moments-là que nous cherchons du secours, que nous crions à Dieu. Ce qui est merveilleux, c'est que Dieu ne va pas nous dire, mais mon vieux, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je cherche à te parler. Et bien maintenant, tu n'as rien voulu savoir, je cherche à te parler pendant 15 ans, maintenant tu attends encore 15 ans et puis je te dirai quelque chose. Non, il vient encore à notre rencontre. Le grand penseur C.S. Lewis, qui a marqué le XXe siècle, a dit ceci: « Dieu murmure dans nos moments de joie, mais tonne dans nos souffrances. La souffrance et son mégaphone pour réveiller un monde engourdi. » C'est pas la parole de Dieu, mais c'est pas mal. N'oubliez jamais ceci. L'objectif de Dieu, mes chers, c'est de nous attirer à lui. C'est de nous sauver. C'est de pardonner nos péchés. Parce que même si Dieu nous soulage de la souffrance, un jour nous allons mourir. Et c'est peut-être certainement une maladie ou une souffrance qui va nous emporter. Et ce jour-là, où irons-nous? Dieu voit beaucoup plus loin que nous. Nous avons souvent la tête dans le guidon, un peu comme les coureurs cyclistes qui ont la tête dans le guidon. Nous aussi, nous avons la tête dans le guidon, nous voyons notre petit problème. Dieu est tellement bon, il vient à notre aide. Il nous dit, oui, je vais faire quelque chose pour toi, je vais être à tes côtés. Mais mon cher, lève un peu la tête. Regarde, où est-ce que tu vas? Il y a un mur là-bas, je vais dans le mur. Je suis en train de planter, je suis en train de rater complètement ma vie. Et Dieu dit, mais moi je vais te montrer que tu vas dans un mur, mon cher. Donc même si j'interviens pour toi maintenant, et je suis prêt à le faire, mais tu vas quand même dans le mur. Tu es perdu. Donc ce que Dieu veut pour nous, c'est d'abord de nous sauver, de nous délivrer du péché. Parce qu'il ne veut pas qu'on se perde. Et du reste, cela nous permet aussi de comprendre pourquoi Dieu est patient et pourquoi Dieu n'intervient pas dans notre monde tout de suite pour tout soulager. Matériellement, enfin, il a la possibilité de le faire puisqu'il est Dieu, puisque tout pouvoir, il a tout pouvoir. Il peut le faire, mais son objectif, c'est de sauver un maximum de personnes. Et parce qu'il voit plus loin, ce qu'il veut, c'est nous sauver. Se pose la question, et je vous la laisse, en suspens pour vous, est-ce que vous êtes sauvé? Je ne vous demande pas si vous êtes catholique, protestant, évangélique, musulman, quoi que ce soit. Moi, je vous demande si vous êtes sauvé, si vos péchés sont pardonnés, si vous avez l'assurance un jour d'aller auprès de Dieu. À vous d'y répondre dans votre cœur. Et si vous n'êtes pas au clair là-dessus, allez voir Gordon, venez me voir à la fin. Je termine avec ceci. Troisièmement, face à la souffrance, sachez que Dieu l'a vaincu. Gravez cette vérité dans votre esprit, dans votre cœur, vivez-la. C'est le cœur du message de l'Évangile. C'est le message que nous fêtons ce week-end. Pâques est le message anti-souffrance, anti-péché. En France, il y a des plans anti pour tout. Plan anti-tabac, plan anti-cancer, plan anti-ceci, anti-cela. Dieu, lui, ça fait 2000 ans qu'il a sorti le plan anti-péché et anti-souffrance. Alors anti-souffrance, pas dans le sens qu'il va tout enlever la souffrance, vous m'avez bien compris en fonction de ce que j'ai dit tout à l'heure, son plan anti-souffrance se nomme Jésus-Christ. Lisez-les ou relisez-les, vous verrez que pendant 3 ans, je l'ai dit tout à l'heure, mais je vais simplement vous lire un passage que j'avais prévu. Vous allez voir que pendant 3 ans, Jésus a guéri, a soulagé la souffrance, non pas de dizaines de personnes, mais ce sont des milliers de personnes qui ont été touchées, délivrées par Jésus. Écoutez ce qu'il nous est dit. Le soir venu, on lui amena beaucoup de personnes qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ces mauvais esprits. Il guérit aussi tous les malades. Ainsi se réalisait cette parole du prophète Ésaïe. Il s'est lui-même chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. N'est-ce pas merveilleux ? Jésus était et est le plan anti-douleur. Pourquoi Jésus a-t-il accompli ces nombreux miracles ? Plusieurs raisons à cela. Premièrement, Jésus a accompli ces miracles pour montrer qu'il était bel et bien l'envoyé de Dieu, le Fils de Dieu, le Tout-Puissant. Jésus a aussi accompli ces miracles pour une autre raison. Pour révéler que Dieu est bon, que Dieu est puissant, que Dieu est à côté de ceux qui souffrent. Non seulement Jésus a soulagé la souffrance du temps de son vivant, mais il est allé jusqu'à donner sa vie, à mourir sur une croix, non pas pour faire un coup médiatique, pour faire bien. La Bible nous dit que Christ est mort pour nos péchés. Et il y a un texte du prophète Ésaïe où il nous est dit ceci, un texte qu'on lit souvent le Vendredi Saint, écoutez bien, qui parle de ce qui s'est passé à la croix. Vous devez bien comprendre ce qui s'est passé à la croix. La croix est un événement capital dans l'histoire du monde, dans toute l'histoire de l'univers, parce qu'à la croix, il s'est passé quelque chose de très fort. Sur la personne de Jésus-Christ, Dieu a mis tous nos péchés et aussi toutes nos souffrances. C'est de nos maladies qu'il s'est chargé, nous est-il dit. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui. Alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé et humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé. C'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous donne la paix est retombé sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Ça veut dire quoi ? Pour faire bref, le péché mérite d'être puni. Puisque la Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Lorsque quelqu'un désobéit au commandement de Dieu, il faut qu'il y ait une punition, qu'il y ait une réparation. Dieu a choisi de placer le péché, la souffrance, tout placé sur la personne de son Fils, Jésus-Christ, qui a pris sur lui notre punition et qui non seulement est mort pour cela, mais aussi qui est revenu à la vie. Et comme l'a si bien dit un auteur chrétien, écoutez ceci, Jésus a été abandonné dans sa souffrance pour que nous ne le soyons jamais dans la nôtre. Je répète cette phrase. Jésus a été abandonné dans sa souffrance pour que nous ne le soyons jamais, et je rajoute une deuxième fois, jamais dans la nôtre. Et c'est justement parce que Jésus-Christ est mort sur une croix il y a 2000 ans et parce qu'il est revenu à la vie le 3e jour et qu'il est vivant aujourd'hui, ce soir, qu'il y a cette possibilité d'expérimenter la réalité de la présence de Dieu, de trouver peut-être des réponses à nos questions. Mais plus que cela, de trouver la consolation, le réconfort, l'aide, parfois, ça fait partie de l'Évangile aussi, je le crois, la délivrance auprès de Dieu, et de trouver surtout une autre manière de concevoir la vie. Parce que les souffrances du temps présent sont une réalité, continueront de nous affecter, même si nous expérimentons par ailleurs à certains moments des délivrances. Mais de pouvoir continuer de croire et d'espérer en un monde meilleur. Parce que Jésus-Christ est revenu à la vie, il y a la possibilité aussi, nous est-il dit, un jour d'être libéré délivré de toutes ses souffrances, dans un monde nouveau que lui-même créera lorsqu'il reviendra sur terre et qu'il fera toutes choses nouvelles. La perspective qui nous est offerte dans la Bible est une perspective, et je conclue avec cela, extrêmement intéressante. C'est une perspective qui ne répond pas à toutes nos questions. Mais si on en compare à bien des philosophies, si on la compare à ce que plusieurs religions nous proposent, nous avons là une perspective nouvelle, novatrice, différente. Une perspective d'un Dieu qui se fait proche de ceux qui souffrent, d'un Dieu qui vient délivrer parfois, et d'un Dieu qui donne une espérance. N'est-ce pas merveilleux ? C'est là le propre du christianisme. Je vous invite à fermer vos yeux, je vais prier, s'il vous plaît. Vous n'avez peut-être pas l'habitude.
Eh bien, je vous demande simplement maintenant, par respect pour Dieu et par respect les uns pour les autres, d'incliner vos têtes. Et je vais prier. Seigneur, nous sommes au terme de cette rencontre. Et ce soir, nous nous adressons à toi et je te prie, Seigneur, en particulier pour toutes celles et ceux qui sont là. Je te prie pour ceux qui sont venus avec des questions. Je te prie, Seigneur, pour ceux qui vivent la souffrance au quotidien. Pour ceux qui ne savent plus comment faire. Qui sont tellement découragés. Seigneur, je te prie pour que tu fasses un miracle pour eux. Je te prie pour que tu fasses quelque chose dans leur vie. Je te prie, Seigneur, pour que tu leur donnes une parole qui vienne d'en haut, une parole qui vienne du ciel. Une parole, Seigneur, qui va les remettre en route, qui va les changer, qui va les transformer, qui va faire qu'ils vont être différents. Je te prie afin que tu déposes dans leur cœur non pas un espoir vain, mais cette espérance sûre, certaine, que tu les remplisses, Seigneur, de ta présence, que tu viennes les toucher aussi dans leur corps, que tu leur montres, Seigneur, d'une manière ou d'une autre, que tu es le Dieu vivant qui les aime et qui veut et qui leur parle aujourd'hui encore. Seigneur, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en ta parole, j'ai confiance en qui tu es, parce que tu es assez grand, assez puissant, pour faire, au-delà de tout ce que nous pensons, au-delà de tout ce que nous attendons. Merci Jésus. Amen.
Amen.
Amen. Voilà mes chers, merci pour votre patience. J'ai vu que j'ai dépassé légèrement de quelques minutes le temps que je m'étais fixé. Pouvons-nous prendre un moment maintenant d'échange, si toutefois vous le souhaitez. Vous avez peut-être des questions. Peut-être que vous aimeriez que je revienne sur un aspect que j'ai développé, qui ne vous a pas satisfait. Vous aimeriez avoir davantage d'éléments d'explication. Peut-être souhaitez-vous aussi un éclairage sur tel ou tel autre aspect. Allez-y maintenant, c'est le moment. La première question est toujours difficile, ou la première prise de parole en public. Peut-être avez-vous un témoignage aussi à apporter par rapport à cela. Donc là aussi. Oui, madame.
Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de vous qui souffre, quand par exemple c'est son enfant qui souffre, c'est très difficile de l'aider, de lui apporter quelque chose, et donc, par exemple ça crée des conflits, et je trouve que c'est très dur d'aider effectivement par exemple son enfant qui souffre. C'est très difficile. Quand c'est soi-même qui souffre, bien sûr on peut prier, c'est quelqu'un d'autre, je trouve que c'est très très difficile. Et soi-même, on souffre, on souffre pour la personne et on a énormément de mal à l'aider.
En effet, alors ça c'est encore un autre cas de figure et vous faites bien de le souligner. Lorsque c'est un proche qui souffre, et apparemment ce proche ne s'ouvre pas.
Oui.
Hein? Parce que s'il s'ouvrait, ça serait moins difficile. Hein? À partir du moment où le proche s'ouvre, il y a la souffrance, mais bon, on peut déjà en parler, et le fait d'en parler, c'est déjà énorme. Hein? Ça permet de nous sentir mieux, ça permet de dédramatiser aussi parfois certaines situations, mais lorsque cette personne-là, effectivement, ne s'ouvre pas, se renferme pour... on ne sait trop quelle raison, soit à cause de la souffrance, soit pour d'autres raisons, c'est encore plus difficile. On a aussi peut-être tendance à se dire, ben mince, qu'est-ce que je n'ai pas fait, ou qu'est-ce que je devrais faire, ou quelle devrait être mon attitude. Là, il n'y a pas de recette miracle. Hein. Une recette, vous l'avez souligné vous-même plutôt, enfin si, une piste. La première, c'est de prier pour que Dieu ouvre une porte, Dieu permette que la situation se dénoue. Dieu nous donne peut-être une parole aussi qui va permettre de renouer le dialogue ou d'aller plus loin. Vous savez, parfois il suffit de pas grand-chose. Parfois il suffit simplement d'une parole. Parfois il suffit simplement d'un regard, d'une attitude, mais qui arrive au moment opportun. Et c'est là que le miracle va se passer. Et c'est en ce sens-là. Donc ça, on peut le demander à Dieu. On peut dire, Dieu, moi je ne comprends pas tout, je n'ai pas toutes les clés. Hein, et même si j'essaye d'étudier, ça, peut-être ça va m'aider, mais je serai quand même bloqué. À un moment donné, on est bloqué. Par contre, toi, tu connais le cœur de cette personne. Toi, tu connais son cœur. Donne-moi quelque chose pour cette personne-là, pour mon enfant. Donne-moi quelque chose. Et vous, continuez de rester, d'être à l'écoute. Hein? Autre réflexion? Oui, madame? Oui. Enfin, à l'intérieur, en dessous de la peau, hein.
Ouais. Donc, j'ai pu entendre que quand lui avait fait des choses, je ne sais pas,
qu'il se fait des choses quand lui avait. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que elle devait retourner en Côte d'Ivoire et que apparemment, il y a des personnes dans sa famille qui ont voulu lui nuire. Hein. Alors, est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose à ce niveau-là? On ne savait pas, parce qu'elle, apparemment, appartenait au Seigneur. Ça ne veut pas dire que rien ne peut nous arriver. Même au niveau spirituel, on peut parfois se prendre des baffes. Et moi, ça m'est arrivé dans le cadre des réunions, des campagnes d'évangélisation que j'ai pu avoir en France ou ailleurs. Mais, donc, peut-être qu'il y avait quelque chose à ce niveau-là. Il ne faut pas l'exclure. Hein. Mais c'est vrai que lorsque une personne participe soit directement, soit de manière indirecte à certaines pratiques occultes, il peut y avoir des conséquences au niveau physique, hein, des maladies, des troubles, etc. Et le fait qu'on prie pour cette personne-là, qu'elle-même se repente déjà, bien sûr, si elle est pour quelque chose, et qu'on prie pour cette personne-là, peut permettre une délivrance et une guérison. Et ça, je l'ai vu à plusieurs reprises.
Hein? Je veux savoir si elle était chrétienne.
Alors, justement, elle disait, elle a affirmé être chrétienne. Mais c'était une foi toute récente. Une foi toute récente et toute naissante.
Parce que la parole de Dieu nous dit, quand on vient au Seigneur, on veut plus la prendre à la fin des péchés. Elle est délivrée, Jésus-Christ est mort sur la croix, il a pris les péchés, il a sauvé.
Ah oui! On est sauvé, mais lorsqu'on vient à Jésus-Christ, si on a eu un passé très très lourd, on peut être instantanément délivré de tout, mais l'expérience nous montre aussi qu'il y a bien des personnes qui se sont réellement converties et qui quand même ont eu besoin d'être délivrées par la suite d'esprits, hein, qui étaient là et ont été libérés de certains liens qu'ils avaient, de certains attachements qu'ils avaient par rapport à des péchés, par rapport à des choses qui étaient plus fortes qu'eux et qui montraient qu'il y avait un lien spirituel extrêmement puissant derrière. Et aussi, parfois, il y a eu des conséquences au niveau physique, c'est-à-dire des maladies qui sont parties. Alors oui, effectivement, lorsqu'on vient à Jésus-Christ, on est sauvé, mais c'est un processus, hein. C'est un processus. Il y en a qui vont vivre instantanément tout, et puis qui vont recevoir tout le pack, je dirais, et d'autres, ça va se vivre par vagues successives. Mais il ne faut pas pour autant remettre en question le fait que cette personne a la foi.
tout cas, c'est ce que je pense. Il y a d'autres avis que je respecte. Y a-t-il d'autres réflexions? Tout à fait. Par rapport à quelqu'un qui n'a pas la foi, ça sera beaucoup plus difficile. Et du reste, on n'a pas forcément, on n'a pas besoin de lui dire. Ça, je l'ai dit pour vous ce soir, sachant qu'il y aurait un pourcentage de personnes qui adhèrent déjà à la chose. On peut l'inviter. Alors ça c'est une toute autre question après. Moi, ce que je fais, c'est que je l'invite à réfléchir déjà. Ok? Déjà, il veut parler. Alors qu'il parle, je regarde. Est-ce que c'est simplement une question généraliste? D'accord? Comme c'est le cas de bien des personnes. Oui, la souffrance, machin. Ou alors, est-ce que ça le touche personnellement? Parce qu'il y a des personnes qui sont très révoltées, et ça, je peux le comprendre, parce qu'elles-mêmes souffrent. Alors là j'aurais une toute autre approche. Celui qui se pose des questions comme ça, c'est peut-être tout simplement qu'il a besoin de moi, je vais lui donner quelques éléments de réponse. Mais l'autre qui souffre personnellement, je vais avoir une autre approche. Je vais avoir une approche déjà où je vais lui manifester de l'intérêt. Je vais lui manifester de la compassion. Je vais commencer à lui parler progressivement de la Bible, à lui parler de Dieu. Je vais même lui proposer de prier pour lui, sans donner de faux espoirs, bien entendu. Mais croyant que par la prière, Dieu peut faire quelque chose, Dieu peut se révéler à lui, Dieu peut lui parler, tout simplement. Je veux dire, c'est quand même le propre du christianisme, d'accord? Le propre du christianisme, bien sûr, c'est d'avoir des réponses intellectuelles à des sujets, mais au-delà des réponses, moi, ce que je remarque de plus en plus, ce qu'on veut, c'est quelque chose de concret. Or, si Jésus-Christ est vivant, et il est vivant, d'accord? Donc, il doit être capable de se manifester, de nous parler, de nous dire quelque chose, et de dire aussi quelque chose à l'autre. Alors, à travers notre intermédiaire, mais directement aussi. Ça nous engage. Ça nous engage beaucoup plus que de donner des réponses. Parce que ça veut dire qu'en faisant cela, je mets ma foi en action. Et je vais prier pour cette personne-là. Et donc là, c'est ma foi qui est mise en jeu. Mais en même temps, c'est beau parce que Dieu, il aime aussi ça, je crois.